Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malade.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les tatouages.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là.
Alors bonjour, bienvenue à l'émission 275 des Entonnoirs, aujourd'hui présentée par Nathalie et François. Alors nous allons commencer par une musique proposée par Johan, HK et les Saltimbanques. Ensuite, une interview de Valérie de Tournay qui est chargée de communication auprès de la Maison des Associations.
Nous enchaînerons donc avec la musique de Margot, qui a choisi le chanteur Eric Chardin aujourd'hui. Ensuite, nous enchaînerons avec la fourmi des spectacles, présentée par moi-même.
Alors, après la fourmi des spectacles, il y aura la parenthèse de Roger Lucien, à la pensée de la semaine de Nathalie.
Nous aurons la partie animaux avec Tahar, qui nous fera partager ses recherches sur les animaux en voie de disparition.
Après une pause musicale, une spirale proposée par moi-même, Bruno nous présentera un poème et nous parlera un peu de l'élection de Chavez.
Ensuite, nous passerons à la chronique santé de Margot, à l'avenir du futur avec Brahim,
une petite devinette par Florent et enfin la météo de Malika. Alors on va commencer donc par un morceau de musique que nous propose Johan. Johan,
c'est moi. Donc avant de mettre le morceau, j'ai des dédicaces à faire, j'ai fait une liste. Alors je dédicace à Jean-François Copé, au Parti Socialiste Pro-Européen et Antidémocratique, à l'UMP, au retour de Sarkozy, aux journalistes des empires médiatiques, aux promoteurs du nucléaire, aux faux résistants au système créé par le système, à l'Europe du racket et de la dette, aux zombies, aux promoteurs du neuromarketing, à tous ceux qui désapprouvent, que je désapprouve politiquement et que j'ai oublié, et qui asservissent et assassinent l'humain, et aux promoteurs de la stratégie du choc des civilisations. Je vous dédicace cette chanson.
Bah, qui c'est qui me dérange en plein sommeil, là? Bah, dis donc, je suis le génie de la benne à ordures, hein. Tu me salues d'abord. Bah, allez, tu peux choisir un vœu. Tu veux être beau comme Benoît Poulvord? Mais malheureux. Tu t'es regardé, je ne peux pas faire ça avec toi, hein. On part de bien trop loin. Tu veux être fort. Fort comme Jean-Claude Van Damme, tu veux dire. C'est-à-dire tu veux mettre des balayettes, des coups de tête, des manchettes, tout ça. Tu veux attaquer tout le monde, quoi, hein. Allez, hein. Eh ben ça, je sais faire, hein. Allez, yop, d'office, hein.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Tatoue cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'envoyait me faire voir chez les Grecs. Pour un petit tas de saison, pour un appart en location, tu voulais pas de ma gueule de métèque. Moi le banquier qui sans scrupule m'a mis en interdit bancaire, pour 15 euros le découvert. Sans boulot, sans que les centules et sans passer par le notaire, je me suis retrouvé cul par terre. Ah, tu prenais pour le roi des cadors, et ben tiens, tiens, prends ça dans ta gueule. Faire partie du décor, et ben tiens, tiens, prends ça dans ta gueule. Au square, au coin de la rue, fouillant les poubelles des messieurs dames, un génie belge m'est apparu. Il m'a refilé la force d'Hercule, la sagesse de Jean-Claude Van Damme. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. La violence, c'est trop violent, et la vengeance, ça sert à rien. Mais faut être aware dans la vie. Casser les pifs, casser les dents, c'est fou ce que ça me fait du bien. C'est comme une sorte de thérapie. Ah, tu prenais pour le roi les cadors, et ben tiens, tiens, prends ça dans ta gueule. Ah, tu voulais faire partie du décor, et ben tiens, tiens, prends ça dans ta gueule. Ah, j'avais pas le CV qu'il fallait, et ben tiens, tiens, prends ça dans ta gueule. Ah, j'avais pas la tenue exigée, et ben tiens, tiens, prends ça dans ta gueule.
quand tu viendras au petit matin pour m'arrêter. On me foutre en tol pour de vrai. On veut pas si je te fais fissa de trois petites prises de karaté avant de te laisser sur le pavé. Et comme je suis un gars courtois, je ferai une petite visite amicale au palais du roi Nimbus. À tous ces sinistres d'état, je vais leur faire ça à Zidane. Rafale de coups de boule dans le plexus. Un, tu prenais pour le roi des gladors. Et ben tiens, tiens, prends ça dans ta gueule. Un, tu voulais faire partie du décor. Et ben tiens, tiens, prends ça dans ta gueule. Un, j'avais pas le CV qu'il fallait. Et ben tiens, tiens, prends ça dans ta gueule. Un, j'avais pas la tenue exigée. Et ben tiens, tiens, prends ça dans ta gueule. Et je sais bien que mon histoire, elle va mal se terminer. Ils vont finir par me faire la peau. Ils vont me tomber dessus un de ces soirs. À 300, ils vont me lyncher. Comme ils font à tous ces salauds. Mais d'ici perpète qui me rattrape, je compte bien encore faire les miennes. Et fracasser quelques gens bien. Coup de balayette, manchette. Petit Ayouken à l'ancienne. Au nom de tous les lâches rien.
Donc voilà, donc c'était un morceau d'HK qui s'appelle Tiens tiens prends ça dans ta gueule, donc c'est clair. Et donc j'en profite pour vous dire que HK et les Saltimbanques seront en concert le 19 octobre à la salle Ouattremet de Roubaix. Et donc c'est pas cher, c'est aux alentours de 12-13 euros, je crois, à l'entrée. Renseignez-vous auprès de l'office du tourisme, je crois, pour les places. Et ça vaut le coup, j'ai déjà vu en concert, ça vaut le coup. Et justement, vous pouvez trouver une interview d'HK sur le site de la mairie de Roubaix, où justement il est interviewé dans le magnifique jardin de la maison des associations de Roubaix. Et je crois que c'est la suite de notre invité.
Tout à fait, tout à fait. Merci Johan. Aujourd'hui, nous accueillons donc aux entonnoirs Valérie de Tournay, qui est responsable de la communication à la maison des associations de Roubaix. Bonjour, bonjour. Valérie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Oui, eh ben, je suis donc bien chargée de communication à la Maison des Associations. Je m'occupe de la promotion de toutes les actions que mène la Maison des Associations pour aider les associations qui ont soit des questions sur leur fonctionnement, soit pour mener des activités, des animations, culturelles, des expositions, des choses comme ça. Donc c'est assez large. On organise pas mal de formations aussi pour les bénévoles. Et donc on a tout un service de conseil aux associations.
Ça fait combien de temps vous faites communication avec le centre social de l'Omelet et du centre loisirs ou soit comme activité pour les personnes âgées?
C'est pas... Ça n'a rien à voir...
Où tu travailles dedans, s'il vous plaît? Tu peux pas en parler, bon, voilà, peut-être.
Alors moi, je travaille à la maison des associations. J'ai jamais travaillé au centre social, mais on sait jamais, hein, ça pourra peut-être arriver. Et ça fait... ça fait bientôt 14 ans.
Bonjour, pourriez-vous nous parler du Festival?
Oui, alors le Festival... C'est un drôle de nom pour en fait annoncer un festival des ch'tis et des wallons. Parce qu'en fait, depuis 5 ans maintenant, les maisons des associations de Roubaix, de Tourcoing, de Mons et de Charleroi ont organisé plein de temps de rencontres entre les associations pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir partager leurs expériences. Des associations de toute nature, en fait. On a travaillé sur trois thèmes principaux, sur les discriminations, toutes les formes de discrimination, sur le patrimoine et la citoyenneté au sens large. Et donc, pendant 5 ans, on a organisé des allers-retours entre la France et la Belgique, entre ces différentes catégories d'associations. Il y a eu plein de choses qui se sont produites, en fait, vraiment très intéressantes. Des choses qu'on a organisées, puis après des choses qui se sont faites un peu, par magie après, du fait des rencontres entre les gens.
Vous vous posez quel genre de discrimination?
Alors, on a travaillé surtout sur les discriminations entre les hommes et les femmes. Mmh. On a abordé un peu toutes les discriminations, mais c'était surtout ce qui s'est manifesté comme intérêt dans les associations qui ont eu envie de faire des échanges, ça a été sur les discriminations entre les hommes et les femmes, et sur la mixité.
D'accord.
Et pourquoi ce partenariat France-Belgique et qu'apporte-t-il ?
Ce qu'on a voulu faire, c'était de montrer aux gens. La Belgique, elle est toute proche ici de Roubaix, tout le coin.
Bien sûr. Oui.
Et voilà, qu'il se passait des choses intéressantes au niveau associatif et que c'était pas si compliqué pour aller voir ce qui s'y passait et puis faire des choses ensemble. Et donc, on s'est aperçu après coup qu'il y a eu des échanges spontanés qui se sont poursuivis ensuite entre des associations françaises et belges, des coups de main qui se sont donnés. Et voilà, c'était un peu un des objectifs. Et puis l'échange d'expérience, tout simplement, montrer un peu nos différences et puis nos points communs aussi, sur des thèmes comme la laïcité aussi. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur la mémoire des quartiers.
Est-ce que vous pensez qu'à travers tous les partenariats que vous avez pu avoir, puisque il y a beaucoup d'associations qui se sont inscrites dans votre projet, il y a des valeurs communes que vous partagez, vous partagez toutes les mêmes valeurs ou alors
Alors.
À savoir, des réflexions nouvelles ou alors. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Alors, je comprends ce que vous voulez dire. Alors. Globalement, on n'a pas compté le nombre d'associations qui ont participé à tous ces échanges, mais par exemple, le jour du festival, il y aura une centaine d'associations présentes, plus d'une centaine. Et donc, de fait, les échanges ont été très variés et avec des opinions, des prises de position assez différentes, forcément. Par exemple, sur la laïcité, il y avait des points de vue très différents. Mais bon, après, forcément, il y a un partage de valeurs au niveau de la vie associative. C'est la liberté d'expression. Et des valeurs de solidarité aussi. Donc ça, c'est souvent des points communs qu'on retrouve au fil des associations. Et forcément, ouais. Ça s'exprime au fil des événements et des rencontres.
Et moi, j'aurais voulu savoir pourquoi la condition publique ?
Alors, on a voulu un lieu fort et symbolique. Parce que déjà, il fallait un lieu aussi spacieux. Parce qu'on va rencontrer, il y aura du monde et il y aura beaucoup d'animation. Et symbolique aussi parce que donc parmi les thèmes, je vous disais, il y a le patrimoine et on cherchait un lieu qui soit un peu transversal, qui soit au cœur de plusieurs territoires. Donc là, on est proche de la zone de l'Union, et puis c'est un lieu qui a une histoire industrielle importante. Or, entre Tourcoing, Charleroi, tout ça, on a beaucoup travaillé aussi sur le patrimoine industriel. Il y a eu des échanges, par exemple, entre les mineurs de Charleroi et les gens du textile de la zone de l'Union. On s'est dit que la condition publique, c'était un beau lieu pour faire cette rencontre. Et avec ce sens-là aussi, autour des échanges et de la mémoire des lieux.
D'accord.
Bruno ?
Oui, moi j'ai une remarque, une question en même temps, parce que vous travaillez au niveau des associations, vous pourrez peut-être m'enseigner, mais il est dit qu'il y avait une grande différence entre les associations à Lille et à Roubaix. À Roubaix, pour une ville de 100 000 habitants, c'est une ville qui pullulait, enfin, et c'est pas du tout péjoratif d'association, de vie associative, alors qu'à Lille, par exemple, c'était plus difficile. Est-ce vrai ou faux
Alors, je peux pas bien comparer parce que je connais pas vraiment la typologie, on va dire, des associations lilloises.
C'est un bruit que j'ai entendu, quoi. C'est une rumeur, quoi. Donc,
non, mais il est un fait, c'est que Roubaix, c'est une des villes où il y a le plus d'associations en Europe. Donc,
Oui, alors après.
Ça surclasse forcément beaucoup d'autres villes.
Oui, alors on a des difficultés à quantifier, en fait. On essaye de le faire à la Maison des Associations pour connaître les associations roubaisiennes, par exemple. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'associations qui se créent. Il y a à peu près, on va dire, entre 70 et 100 associations par an qui se créent à Roubaix. Enfin, en tout cas, avec le siège social sur Roubaix. Parce que voilà, après, quels sont les critères aussi. mais il y a beaucoup d'associations dont on n'entendra jamais parler. Voilà. Et puis après, il y a plein d'associations qui, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Il n'y a pas de référencement non plus au niveau des disparitions d'associations. Mais souvent, donc par exemple là, on estime que sur Roubaix, il y a à peu près entre 700 et 800 associations qui existent. Mais globalement, qu'on voyait au travers la presse ou des associations qui vont parler d'elles. Enfin voilà, il faut distinguer les associations qui sont créées dans un cadre très intimiste ou particulier entre quelques personnes et qui n'auront jamais d'action publique et de visibilité publique. Et puis des associations qui sont créées dans un sens de relation avec la population pour une raison ou pour une autre, de loisirs ou de solidarité ou de citoyenneté. Et là, c'est un peu différent et c'est une comptabilisation un peu différente aussi. C'est vraiment très compliqué la question des effectifs associatifs. Roubaix est dynamique, mais je pense que bon voilà, après c'est toujours.
Moi, on m'avait dit en Europe, les principales villes où il y avait beaucoup d'associations, c'était Roubaix et Saint-Étienne.
D'accord.
Alors moi, j'ai aussi une question. Bon, elle est pas très claire dans ma tête, mais je vais essayer de faire en sorte que vous la compreniez. Les associations, ça touche des subventions de l'État, des fois.
Entre autres.
Ouais. Et est-ce que les associations, ce serait pas un des services publics du coup de la France, un des plus importants par rapport à tout le lien social que ça crée et l'aide que ça peut apporter aux citoyens?
Oui, donc c'est les associations effectivement remplissent un certain nombre de fonctions qui peuvent qui peuvent remplacer du service public, mais alors toutes les associations ne reçoivent pas des subventions d'une part, et d'autre part effectivement c'est toute la difficulté pour les associations à la fois de pouvoir remplir leur projet, de pouvoir faire aboutir leur propre projet, donc là des actions de solidarité, etc. Où entre guillemets on a construit un projet, des valeurs autour de ça qui nous sont propres. Et puis la logique de commande publique qui est aussi un petit peu compliquée à gérer et ça fait l'objet de nombreux débats. Je suis pas forcément la personne la mieux placée pour vous. Pour rentrer sur le fond de la problématique, d'accord. Mais effectivement, les associations sont un des acteurs clés de l'aide à la population. Et effectivement, ça remplace quelquefois un certain nombre de manques des services publics, c'est certain.
Donc ça valait bien le coup de faire un festival pour eux. Fêter ces associations.
Voilà, fêter les associations, fêter les bénévoles, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dons de soi au travers des associations. La frontière est jamais très claire entre les salariés et les bénévoles, parce que même les salariés, il y en a aussi pas mal qui donnent de leur temps, en plus du temps officiel, on va dire. Et ça mérite effectivement d'être mis en valeur.
Donc on a bien compris que à ce festival il y aurait beaucoup d'associations de représentées.
Oui, plus d'une centaine.
Vous m'avez parlé d'animation aussi. Que proposent-elles ces associations?
Alors donc je vous ai parlé un peu des différentes thématiques clés. Ouais. Et donc autour de ça, il y a eu aussi, on va dire, des rencontres entre les générations, des rencontres. Alors on va voir aussi bien du hip-hop, par exemple, que la rencontre entre les gens des mines et du textile. Des expositions qui vont essayer de réexprimer un peu tout ce qui a été changé autour de la discrimination entre les hommes et les femmes.
Le racisme aussi, peut-être.
Alors il y a eu des échanges sur la question du racisme, mais moins que sur que sur la discrimination homme-femme. Ça a été un choix à un moment donné. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas aborder tous les sujets. Donc, alors il y aura des présentations de courts-métrages aussi sur le thème très très large de l'autre côté. Alors de l'autre côté, ça peut être de l'autre côté, la frontière entre les cultures, ça peut être de l'autre côté du miroir, ça peut être de l'autre côté de la frontière. C'est très très large. C'était vraiment pour aussi
très général.
Donc des courts-métrages, il y aura un peu de spectacle aussi, pas mal d'expositions. Et puis donc ça c'est toute la partie festival, c'est-à-dire toute la partie d'échange franco-belge. Hein, c'est vraiment pour montrer tout ce qui a été fait. Et puis la deuxième partie qui est une partie forum avec où là on va retrouver toutes les associations roubaisiennes et donc des stands d'associations et quelques associations belges qui peuvent avoir une intervention sur le territoire roubaisien.
Je voulais savoir ça se passe quand et où exactement, à Roubaix ou autre.
Donc ça se passe à la condition publique, place Federbe, et ce sera de 13h à 19h.
Quel jour ?
Samedi 13 octobre.
Samedi 13 octobre de 13h à 19h, c'est
ouais,
ça ?
Oui, tout à fait.
D'accord, ben merci beaucoup.
Merci
à vous.
Merci
à vous.
Non, musique de Margot, pardon.
Oui, donc on va donc écouter Eric Chardin avec le titre « Pense à moi » et c'est un titre de 1977.
Quand tu sors avec lui, pense à moi. Quand il t'embrasse tendrement, pense à moi. Dans tous ces rêves que tu n'avoues pas, dis pense à moi. Personne ne me dira plus je t'aime. Ça me fait du mal, mais pense à moi quand même. Y'a rien plus beau que les sentiments secrets dans ces moments-là. Pense à moi, y'a rien de plus beau qu'un désespoir secret dans ces moments-là. Moi quand même, y'a rien de plus beau que les sentiments secrets dans ces moments-là.
Ici des fous.
Pardon ?
Ici des fous.
Concert. Théâtre. Ouf, détente.
Expo.
Musique.
Spectacle.
Théâtre. Humour. Comédie.
Animation.
Loisirs. Divertissement.
Divertissement.
Spectacle.
Humour.
Comédie. Loisirs.
Concert.
La fourmi des spectacles.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Donc cette semaine, dans la fourmi des spectacles, je vais vous parler de Nina Tindall. Son nom circule comme un courant d'air actuellement vif dans le monde des chanteuses pop-folk. Des chansons intimes, chantées du fond du cœur, d'une voix magnifique et magnétique, fine et sensuelle à la fois, profonde et retenue. Nina Tindall a foudroyé tous ceux qui ont eu la chance de la voir sur scène. Et ce sera le 12 octobre 2012 à 20h45 au Porche Fernand à Béthune. Voilà, le prix des places est fixé à 11,70 €. Vous pouvez d'ailleurs par l'intermédiaire réserver vos places donc aux poches. Le détour par Béthune cette fois-ci s'impose avec cette chanteuse de qualité remarquable et qu'on n'a pas fini d'entendre parler à mon avis. Ensuite, je vais vous parler de Smaïn qui sera à Lille prochainement. De retour dans le bistrot de son enfance, Smaïn nous transporte pendant deux heures dans son rôle de quotidien, c'est-à-dire mariage mixte, le psy, l'adoption, la police, les racistes, une visite de Paris très particulière. Et c'est le 12 octobre 2012 à 20h30 au prix de 27 euros. Au casino donc de la gare Lille-Flandre, parvis de Rotterdam. Il est possible de réserver sur casinolille.fr. Alors bon amusement et à la semaine prochaine.
Merci Nathalie pour cette fourmi des spectacles. Et maintenant nous allons passer à la parenthèse de Roger Lucien.
La parenthèse du jour avec Roger Lucien.
Bonjour à tous. Il y a des sujets qui créent parfois la polémique. Polémique due aux idées contradictoires entre les personnes qui discutent. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un sujet qui peut créer la polémique. Donc je vais introduire ces sujets en lisant deux extraits de livres du savant Cheikhanta Diop. Donc le premier extrait du titre intitulé « Nation nègre et culture ». Donc c'est le chapitre 5. Et le sujet choisi, c'est le problème posé par les cheveux lisses et les traits irréguliers. Donc je vais lire l'extrait. Il nous faut dire ici que ni les uns ni les autres ne sont l'apanage d'une race blanche. Il existe deux races noires bien définies à l'heure actuelle, l'une à peau noire et à cheveux crépus, l'autre à peau également noire, très souvent même extraordinairement noire, avec des cheveux lisses, un nez aquilin, des lèvres minces, l'angle des pommettes aiguë. Nous avons un prototype de cette race aux Indes, ce sont les Dravidiens. Nous savons aussi que certains Nubiens relevaient du même type nègre, comme l'indique cette phrase de l'auteur arabe Edrissi cité par Pédral. Les Nubiens sont les plus beaux des Noirs. Les femmes ont les lèvres minces et les cheveux non crépus. Et je vais vous lire un second extrait d'un autre livre du même savant, Cheikhanta Diop, intitulé « Civilisation ou barbarie ». Donc je vous lis la première partie du livre. Intitulé « Approche paléontologique ». Donc, bien que la notion de race soit très relative, la biologie moléculaire a mis en évidence des marqueurs raciaux, des facteurs presque strictement localisés chez chaque groupe racial, facteurs Diego chez les jaunes, facteurs Kell chez les blancs, et facteurs Sutter et GM6 chez les noirs. En fait, c'est pour dire que dans ma petite vie, je vais dire, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes, d'assister à des personnes polémiquer sur ce genre d'individus qui avaient la peau très noire et les cheveux lisses. Donc certains affirmaient que ce n'était pas des noirs, d'autres disaient que c'était des noirs. Donc j'ai eu deux ou trois fois l'occasion de voir des gens polémiquer sur ce sujet. Donc, je tenais à apporter un certain éclairage du savant Cheikhanta Diop. Donc, peut-être ici autour de la table, les points de vue sont différents. Ou alors, les idées de certaines personnes corroborent avec les propos de Cheikhanta Diop, je ne sais pas. Donc, d'où le sujet d'aujourd'hui. Voilà.
Moi, il me semble que ce que tu nous dis est intéressant, mais que depuis que tes livres sont parus, là, la notion de race pour l'être humain a été complètement abandonnée.
Oui. Je voulais abonder dans le sens de François. Je trouve que il y a un décalage. Je vais être franc par rapport à toi, Roger Lucien. Je trouve qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que le racisme et le colonialisme dans la tête recule vachement, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je vais donner un exemple. Par exemple, j'ai connu un vieux couple maintenant, qui s'était connu pendant la guerre d'Algérie. Lui était algérien, d'origine algérienne, et elle française, quoi. Enfin, d'origine européenne. Et quand il passait dans la rue, tous les gens leur crachaient dessus. Parce qu'une arabe ne devait pas épouser une française. Ben, depuis, ça a bien changé, et c'est pareil pour les noirs, quoi. Et par rapport à ça, je crois que, on commence à bien dépasser les clichés. Voilà.
Johan? Je voudrais te répondre, François. Tu dis, tu peux répéter ce que tu disais?
Moi, je disais que ethnologiquement parlant, en fait, la notion de race pour l'être humain a été complètement abandonnée. Elle a été abandonnée pour plusieurs raisons.
Non, mais attends, laisse-moi, parce que c'est moi qui ai intervenu.
Vas-y.
Là, ça me suffit ce que tu m'as dit. Et en fait, ce que tu me dis, ça me choque. Enfin, ça me choque pas, mais ça me frappe parce que j'ai discuter avec quelqu'un de la déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Mmh. Et en fait, alors malheureusement je pourrais pas citer l'article, mais je pense que dans un article il y a écrit, ils utilisent le terme race en fait. Je pense que ce terme est utilisé dans la déclaration des droits de l'homme.
Oui, mais elle date de 1789. Hein,
non, des droits de l'homme de l'ONU, c'est 46, 1900.
Oui, mais c'est 46, c'est encore 46.
Je pense que le terme race est utilisé.
Date des années 50, et le terme de race en fait a été abandonné à la fin des années 80 ou quelque chose comme ça.
Mais est-ce qu'on pourrait avancer un petit peu dans le débat? Parce qu'en fait, pour recadrer un peu le débat, le problème qui se pose, que j'essaye d'exposer, c'est que beaucoup de gens polémiquent sur deux types de personnes, d'individus, qui seraient différents parce que l'une aurait des cheveux lisses et l'autre aurait des cheveux crépus. Donc je veux savoir pourquoi cette polémique depuis longtemps.
Alors, bah déjà par rapport à la première remarque, je pense que les races en fait sont toujours là. Hein. D'ailleurs, moi je m'appelle Rachid, je suis de race blanche et sur les cartes d'identité il y a cette indication, on est d'une race ou d'une autre. Après, faut pas confondre race et racisme. C'est vrai qu'avec l'histoire, on a un peu confondu, donc ça fait un petit peu, dès qu'on dit race, il y a un peu une opposition qui se met en place, mais faut pas le confondre. C'est un peu comme le drapeau de la France et puis le nationalisme. C'est deux choses qui ont été un peu amalgamées et où on est un peu choqué. Et c'est vrai que dans les années 80, on a essayé. Sinon là, par rapport à ce que tu racontes, c'est deux types de populations qui sont différentes. Après, par rapport au fait d'avoir des cheveux lisses, un nez fin et qui rappellent plus les Européens, est-ce que c'est quelque chose du colonialisme qui restait en disant que c'était les plus beaux? En tout cas, l'anthropologue lui dit bien qu'il a trouvé deux types de morphologies différentes. Après, est-ce qu'on a une qui est mieux que l'autre? Bah, je pense qu'en fonction de la supériorité de la civilisation qui est le plus représentative à un moment donné, je pense que c'est elle qui va être la mieux. Mais si à un moment donné, c'est tous des gens et en Afrique qui dominent et qui ont des traits un petit peu, si les chanteurs ont des nez un peu aplatis et qui sont forts avec des grosses lèvres, dans ce cas, la beauté sera leur en fait. La beauté, elle va toujours vers la mode du moment. C'est quelque chose qui est variable. D'ailleurs, les femmes, souvent ici en Europe, celles qui ont des cheveux lisses veulent avoir des cheveux bouclés. Bon, moi, je suis dans un couple mixte, on va dire. Donc, celles qui ont des cheveux lisses, elles veulent du volume, elles veulent avoir des cheveux bouclés. Et celles qui veulent avoir des cheveux bouclés, donc tout est relatif. Mais par contre, par rapport je pense qu'il n'y a pas de tabou et que le fait de mettre la notion de race de côté, c'est quand même, ça change pas le fait qu'on soit tous des êtres humains et qu'on ait tous le même ADN.
Ça faisait longtemps que t'avais pas vu le micro, tu le lâches plus, Rachid.
Yohan veut dire quelque chose de plus.
Ouais, parce que ça me fait penser, tu dis, on polémique sur des, en fait, c'est sur des critères physiques, en fait, cheveux lisses, et en fait, ça m'évoque quelque chose, en fait, l'histoire du Rwanda. Les Hutus et les Tutsis, c'est bien ça? En fait, d'après ce que j'ai compris, on les distinguait par rapport à des traits physiques, un peu comme ce que tu expliques. Et ce que j'ai compris, c'est que le colonisateur belge avait fait exprès en fait de diviser comme ça et de créer peut-être artificiellement des races basées sur des critères qui sont physiques. C'est peut-être pas très important de noter une différence, faire une coupure parce que t'as les cheveux lisses ou ben voilà. Et je pense que ça peut être dangereux parce que enfin, je pense qu'on est des humains avant tout, tu vois, et que peu importe la couleur,
voilà, ça sert à rien de lutter. Enfin, moi, je trouve que ça n'a pas de sens de lutter pour prouver que notre race, elle est supérieure. Je m'appelle pas Claude Guéant, donc
je vois pas l'intérêt. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que le savant n'essaye pas de discriminer, mais de distinguer. Il insiste sur la distinction et non sur la discrimination. C'est ce que je veux dire. Et donc, c'est sur ce sujet que j'aimerais qu'on apporte des éclairages.
Et même, merci Roger Lucien, c'était très éclairant. Nous allons passer à la pensée de la semaine de Nathalie.
La pensée de la semaine. Chut, chez les entonnoirs.
Cette semaine, nous allons, après l'amitié de la semaine dernière, nous allons parler de la clarté. Fais preuve de clarté, on avance mal dans le brouillard. Éclaire tes pas d'un nouveau fonctionnement. Définis sans détour les buts et les espoirs. Organise tes jours et tes heures. Anticipe ce qui est possible de l'être. Hiérarchise les priorités. Ajoute un peu de méthode à ta vie. Et fait preuve d'un poil de discipline. Bref, c'est aussi ainsi que l'on prend soin de soi. Qu'en pensez-vous ?
Alors, qu'est-ce que tu en penses, Florent ? Tu as écouté ?
Ouais, un petit peu, ouais. C'est le fait de mener à bien ses actions, bien s'organiser. Voilà, quoi. C'est autour de l'organisation.
Ouais. D'écarter aussi tout ce qui...
qui est inutile. Hein.
Voilà, tout inutile, ce qui est inutile.
Voilà. D'accord, ouais, je pense que c'est ça.
Brahim ?
Moi, j'ai pour un bon repas à lui, parce que quand on est dans le brouillard, on voit pas. Quand il y a du brouillard, on mange dans la rue. Par exemple, si tu perds dans ton chemin, et ben, tu peux pas marcher pour prendre une loi de poche. Voilà.
C'est un rapport avec des trucs qu'on est en mesure de faire, un savoir-faire et tout. Tout qu'on sait, bon, on va pas trop faire des trucs. Ouais.
Johan.
La deuxième phrase, elle dit, on avance mal dans le brouillard. Et donc, ce que je comprends, c'est que soit le brouillard, on peut se le créer soi-même, mais voilà. Je pense que la société, en d'autres temps, il y a eu des documentaires qui s'appelaient Nuit et brouillard, et je pense que la société à l'heure actuelle, elle est très créatrice de brouillard.
Oui.
Et donc, même si on fait les efforts pour faire preuve de clarté, je pense qu'il y a, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a toujours le retour du réel, et que le réel, je trouve qu'il est très, très épais, le brouillard du réel.
Mmh. Valérie, quelque chose à dire ?
Oui, moi la clarté, ça m'inspire la conscience, c'est-à-dire de s'observer déjà, voir comment on fonctionne, pouvoir en tirer des leçons, et puis éventuellement changer notre façon d'être et notre façon de faire.
Ah, tout à fait d'accord.
D'accord.
Moi, en tant que poète, je vais encore dire une petite bêtise, mais c'est pas grave. En tant que poète, quand je suis dans le brouillard, je ne suis pas dans le gaz de schiste, mais dans le gaz gauchiste.
La bonne blague de Bruno.
Eh bien, merci pour cette pensée.
Donc, maintenant, nous allons enchaîner avec Tahar, hein, qui nous parle des animaux en voie de disparition.
Vous écoutez les entonnoirs. Et c'est l'heure de la chronique écologique. Avec Tahar.
Alors nous allons parler des animaux en voie de disparition et plus précisément au Mexique. Alors j'ai choisi le premier animal, on va parler de la catégorie des félins, à savoir le jaguar. Alors le jaguar risque de disparaître, il pèse de 200 à 250 livres. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de hauteur avec une longueur de corps de 3 pieds. Il a des taches beiges avec des anneaux. Mais quelques-uns peuvent être roux. Il vit dans la forêt tropicale où il y chasse le chevreuil, etc. Il y a également le lynx roux qui pèse de 13 à 30 livres, qui risque de disparaître. Il a une fourrure grise à brun rougeâtre. Il chasse dans les marais, les déserts, etc. Ensuite, il y a une autre catégorie d'animaux qui risquent de disparaître au Mexique, ce sont les singes.
un certain singe. Alors à savoir le singe hurleur qui vit dans le sud du pays. Il rugit pour communiquer et il peut atteindre 13 livres. Il mange des fruits et des fleurs. On trouve également le Guatemala noir hurleur, un autre singe connu pour son cri fort dans les forêts tropicales. Alors, j'ai répertorié en outre une troisième catégorie, on va parler des animaux marins. Le marsouin vit dans les lagunes, il chasse les poissons. Il y a d'autre part un autre animal qui risque de disparaître, c'est la tortue boîte de Coahuilan. Elle vit dans les marais et elle se nourrit d'insectes et de plantes. Enfin, pour la dernière catégorie, on va parler d'oiseaux, notamment de la coquette hubcourte, un minuscule colibri qui vit à Guerrero, où il se nourrit de nectar d'insectes. Il mesure moins de 5 cm de longueur. Il a une gorge verte, vive, un croupion pourpre, bronze et une couronne rouge-brun. On trouve aussi l'aigle harpie en voie de disparition et il vit dans les forêts tropicales du sud. Il pèse jusqu'à 20 livres. Alors, mes sources, je vais vous les citer. Il s'agit de Nancy Wagner, de Demand Media. Alors maintenant, si vous avez des questions à poser, peut-être.
Oui, moi je me demandais pourquoi as-tu choisi le Mexique ?
Alors, on avait commencé à parler d'un animal il y a quelques semaines de ça, et on parlait d'un animal qui ressemblait à la salamandre, et on avait et justement cet animal se trouvait au Mexique, alors on a pensé continuer avec le Mexique.
Très bien.
C'était à Brahim, après c'était à vas-y Brahim.
Et est-ce qu'il y avait des girafes aussi dans l'Afrique aussi même il y avait des tourterelles ou soit des autruches ou soit il y avait des flamants roses ou soit des chasses. Pourquoi les chasses alimentent des animaux ou des insectes? Pourquoi je te pose la question pourquoi les chasses ils montent dans les arbres et pourquoi ils montent pas faire leur queue d'accueil avec les autres chasses?
Ah, ça, ce sont les secrets de la création. Je ne sais pas. Maintenant, c'est l'évolution naturelle des animaux. Ah, je peux pas te répondre, mais enfin, ce que je sais, c'est qu'il y a, pour résumer, c'est qu'il y a beaucoup de, enfin, il y a 4 ou 6 ou une dizaine d'espèces d'animaux qui risquent de disparaître, au Mexique. Hein, je parle au Mexique. Oui. Hein, au Mexique, et bon, c'est dangereux parce que ça va poser un problème au niveau de l'équilibre naturel entre les espèces. Et donc, en plus, on va avoir des animaux qu'on ne reverra peut-être plus. Hein. Et bon, en général, elle est souvent menacée par l'espèce humaine. Il ne faut pas l'oublier aussi.
Oui. Moi, j'ai à cause des espèces en voie de disparition, j'ai un copain qui est poète à Paris. Bon, il souffrait d'insomnie. Bon, il écrivait, il souffrait d'insomnie. Donc, il a entendu parler des dodos à La Réunion. Il dit tout de suite, je vais à La Réunion. Il arrive là-bas, on lui apprend d'un seul coup que les dodos ont disparu il y a 2 siècles. Ah ben, depuis, il écrit à compte à dormir debout. Voilà.
La fin dernière, je discutais avec une copine, elle me disait ouais, les beaux gosses, c'est en voie de disparition. Et moi, j'ai envie de dire faut venir aux entonnoirs. Lundi à 10h à la condition publique, 14 rue Federne.
Bon, merci beaucoup. Florent.
J'ai vu un reportage à la télé, c'était à l'époque de TF1, l'émission reportage, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais c'était un reportage en Chine où on voyait des gars qui attrapaient des chiens avec leur filet qui les mettaient dans les camions à benne.
Oui, mais les chiens sont pas en voie de disparition. Hein.
Ouais, mais c'est un exemple, en Chine, ils sont massacrés.
Il paraîtrait, à ce qui paraît, que si les abeilles étaient amenées à disparaître, l'humain disparaîtrait quelques années après, quoi.
On a besoin des abeilles,
Donc merci. Ceux
qui nous écoutent, par pas.
Merci Tahar pour cette belle chronique. Donc nous enchaînons avec la spirale, donc la pause musicale de François.
Jingle, oui.
La spirale. Le disque, cet objet circulaire, comprend une spirale. La spirale tourne dans la platine, mais elle tourne aussi dans les têtes.
Voilà, donc François, tu nous parles de quel morceau aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je vous propose un morceau de Art of Noise. Art of Noise, c'est un groupe qui date de la fin des années 70, qui a sévi dans les années 80, dans les années 90 et qui sévit toujours, hein, ça existe toujours. C'est un groupe de musique avant-gardiste en fait. Au début des années 80, ils faisaient déjà de l'électro, de l'électropop. Et voilà, je vous propose ça.
Les Antonois.
Ici les fous.
Pardon ?
Ici les fous.
Alors maintenant, nous allons passer à la chronique de Bruno, qui va commencer par un poème sur le Venezuela, c'est ça ?
Oui, à préciser, le poème, il date exactement du mercredi 29 août 2012, mais il est toujours d'actualité, et il concerne donc les élections au Venezuela.
À toi.
Oui, et après, quelques réflexions. Le titre s'appelle « Citoyen des étoiles ». À l'instant, j'ai décidé de mettre en rapport Norris, poétesse de poésie du Venezuela, avec un Superman citoyen des étoiles qui en a marre des pitreries de Hugo Chavez. Pour lui, c'est le culte malade et religieux du pouvoir qui a rendu malade un président qui se croyait investi par le divin. Et c'est pour ça que ce héros extraordinaire, tant il marque notre imaginaire, sera cet homme, Norris, devenant son étoile, sa star à Caracas ou dans le reste du pays, qui, dans une citoyenneté libre, soit comme électeur, soit comme agitateur, en vue d'échéances prochaines, se confrontera à quelqu'un d'ubuesque qui, dans sa fin, comprendra « La politique, c'est comme la vie. Ça va et ça vient, et ça n'est ni satanique ni édénique, surtout lorsqu'on parle au nom du socialisme. »
Bravo Bruno.
Bravo Bruno.
Merci Bruno.
Et alors, quelle réflexion ça te...
Ben non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui défendent Hugo Chavez, quoi. C'est-à-dire que Hugo Chavez... Mais premièrement, je crois que c'est un brouillard de mensonges, dans le sens où Hugo Chavez, finalement, c'est un populiste, très autoritaire, et si on l'avait laissé faire, ça aurait été un nouveau dictateur tel que Brejnev, quoi. Voilà, quoi. Donc par rapport à ça, comme à l'époque, à la fin des années 70, j'ai préféré l'Amérique de Reagan, pour des raisons évidentes de politique, à l'URSS de Brejnev, aujourd'hui, ben je crois que je mets plutôt du côté de Obama contre Chavez. Voilà. Pour des raisons de liberté et d'aération des idées.
Bon, ben merci pour ce point de vue. On va passer à la chronique santé de Margot.
Oui, jingle.
C'est l'heure des médicaments. Médicaments.
C'est surtout l'heure de la chronique santé de Margot.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du vaccin contre la grippe. Donc, en sachant que le vaccin contre la grippe n'est pas obligatoire, et donc certaines personnes peuvent bénéficier du vaccin gratuit. Donc, c'est les personnes qui sont atteintes des bronches, qui sont cardiaques, diabétiques aussi, et les personnes âgées de plus de 65 ans. Et donc, le premier volet de ce document, que c'est la Sécu qui vous envoie, le premier volet, donc vous allez à la pharmacie, vous allez chercher votre injection. Et puis, le deuxième volet est pour l'infirmière ou votre médecin traitant qui fera votre injection. Donc, j'ai une question aux autres noirs. Que pensez-vous du vaccin ? Qui est pour ? Qui est contre ? Pourquoi ?
Alors, je pense qu'avant d'être pour, avant d'être contre, il faut faire des recherches. Et donc, faut faire des recherches qui, des informations qui disent en quoi c'est bénéfique et des informations qui disent pourquoi ça peut être dangereux. Mais je pense qu'il faut le faire honnêtement. C'est-à-dire que, il y a un documentaire qui existe qui s'appelle Silence, on vaccine, qui dit que les vaccins c'est un crime contre l'enfant. Il y a des médecins qui dénoncent aussi les vaccins comme étant dangereux. Il y a des gens qui disent que les adjuvants utilisés dans les vaccins, il y a par exemple du mercure. Donc je pense que il faut se renseigner avant de prendre parti, quoi. Alors moi je suis pour ou contre, je sais pas.
Personnellement je suis contre le vaccin. Je ne fais pas le vaccin. Je l'ai gratuitement, je ne le fais pas. Donc d'autres.
Alors, moi je sais que en ce qui concerne les vaccins, on m'a dit qu'il y a toujours une certaine partie de la maladie qui est inoculée à l'intérieur du vaccin, et ouais, que cette maladie, on la reçoit mais à petite dose, et qu'après elle peut se révéler chez le sujet, quoi, chez le patient, quoi.
Deux types de vaccins, il y a les vaccins où dedans il y a des virus qui ont été tués, donc là il y a la maladie, mais elle est morte en fait, et ça stimule votre immunité. Et il y a des vaccins où il y a des virus qui ont été atténués, affaiblis, où ils sont... Moi, ma position, j'en profite que je t'ai pris la parole tard, pour ma position, c'est que la vaccination après pour la grippe, Bah ça dépend, hein, là ce n'est pas non plus obligatoire, hein, faut pas forcément parce qu'on parle du vaccin de se faire vacciner. C'est conseillé et remboursé pour les gens de plus de 65 ans, mais si quelqu'un a déjà fait une bronchite asthmatiforme, on va comprendre que ben si ma grand-mère elle attrape la grippe, ben j'ai pas envie qu'elle meure à 70 ans, j'ai envie de la garder encore un petit peu. Donc je conseille à tous les gens de plus de 65 ans, les gens diabétiques de se faire vacciner parce qu'il peut avoir des conséquences graves. Après quand on est jeune adulte en forme, ben mourir de la grippe c'est quand même assez rare, même si on a eu quelques-uns il y a quelques années. Hein. Donc si vous voulez vous faire vacciner parce que vous n'avez pas envie de rester 3 jours au lit, faites-le. Sinon, ben faut être malade. On sera malade 3 jours et puis c'est tout.
Ouais, faut prendre le risque. Quoi.
Voilà, on ne sait pas non plus la fin du monde.
Et ça coûte 6 € des poussières le vaccin.
Tu parles que de la grippe ou bien du vaccin de manière générale ?
Du vaccin en général, justement.
Moi, je pense que je suis pour le vaccin parce qu'il semblerait qu'actuellement, une équipe de chercheurs sud-africains aurait, par exemple, c'est un exemple que je donne, aurait découvert un vaccin, du moins, aurait mis au point un vaccin qui traiterait le paludisme. C'est-à-dire que si on reçoit l'injection, lorsque ce vaccin sera au point, lorsqu'on recevra l'injection, on aura 1% de chance, peut-être même moins, d'attraper le paludisme. Et le paludisme est la première cause de mortalité dans le monde. Donc moi, je suis pour le vaccin.
Et en sachant que ça fait effet 15 jours après hein, l'injection.
Moi, je suis pour le vaccin.
En tout cas, la question de la vaccination, que ce soit pour la grippe ou pour les autres maladies, c'est dans le milieu médical, c'est quelque chose qui fait pas consensus en fait. Il y a des pour et il y a des contre. Donc on peut avoir chacun notre point de vue, mais il y a vraiment un débat avec des gens qui vont jusqu'à dire que Pasteur, qui a découvert le vaccin contre la rage, en fait, ce serait quelqu'un qui aurait jamais rien découvert, qui aurait piqué ses trucs à d'autres médecins, tout ça. Donc je pense que c'est bien d'avoir chacun un point de vue, mais il faut se demander comment ça se fait qu'on a ce point de vue-là sur le vaccin. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Quelles informations on a eues pour se faire notre point de vue? Et je pense que c'est de la médecine, donc je pense pas que c'est un reportage aux 20h qui va durer 20 minutes qui peut nous donner des vraies informations. Je pense que on doit pas connaître les tenants et les aboutissants et on juge peut-être trop vite à tort ou à raison.
Merci Johan. Et maintenant nous allons passer avec les devinettes de Florent.
Oui, bonjour, rebonjour plutôt.
On n'a pas le temps.
Je peux pas essayer ?
On n'appelle pas. Bon, moi d'accord, je reprends. La météo. Voilà.
Désolé Florent, ce sera pour la prochaine fois. Non, la météo de Malika.
Ouais, je la présente.
Voici la météo. Vendredi. Temps. Quelques nuages. Quelques pluies. Vendredi, samedi et soleil et nuageux. Dimanche, temps de pluie et soleil. Température en baisse. Voilà, bon samedi et bon dimanche.
Merci Malika, au revoir,
à la semaine prochaine.
Au revoir.
Ciao.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Parce que c'est des entonnoirs, parce qu'ils donnent plus fou dans la tête, et ça gratte des poux sur ma tête, et je viens plus fou, c'est ça, des entonnoirs.